Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 19 mars 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique intitulé « Missiles iraniens déplaceront Israël ». Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran relance son plan d'exportation de GNL alors que le monde s'obscule pour le gaz naturel. Le conflit en cours en Ukraine menace davantage la sécurité alimentaire mondiale. Les prix des denrées alimentaires ayant déjà atteint un niveau record, avertit le Programme alimentaire mondial. Et le Soudan du Sud conviennent d'un accord de coopération aux frontières. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran relance son plan d'exportation de GNL, gaz naturel liquéfié, alors que le monde s'obscule pour le gaz naturel. Ainsi écrit Bloomberg. L'Iran relance ses efforts pour exporter du gaz naturel liquéfié, tout comme l'Europe tente de réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe et que les puissances mondiales négocient un allègement des sanctions contre la République islamique d'Iran, a écrit Bloomberg le 15 mars. La Compagnie nationale du pétrole iranienne a rappelé les investisseurs à soumettre des propositions pour la construction de mini-unités de GNL, sans préciser la taille, le calendrier ou l'emplacement. Selon un communiqué. Les clients européens parcourent le globe à la recherche de sources de gaz qui pourraient remplacer les flux russes. La Russie est le premier fournisseur de carburant de l'Union européenne, fournissant environ 40% du gaz consommé dans le bloc l'année dernière, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz au monde et en exporte déjà par pipeline vers ses voisins, la Turquie et l'Irak. Dans la foulée, le PDG de la Compagnie nationale du pétrole iranienne a déclaré jeudi 17 mars que l'exploitation de l'un des secteurs de la raffinerie de la phase 14 du champ gazier de Parsud avait commencé avec la capacité d'adoucir 14 millions de mètres cubes de gaz par jour. M. Rojasteh Mehr a déclaré « Le contrat du champ commun de Sohrab a été finalement mis en œuvre et un nouveau contrat vient d'être signé qui nous apportera un investissement étranger de 500 millions de dollars ». Une augmentation de la production de gaz dans la phase 11 du champ de Parsud sera à l'ordre du jour au cours de l'hiver prochain. La raffinerie, que se trouve à la phase 14, possède 4 secteurs et a une capacité de 56 millions de mètres cubes par jour pour adoucir du gaz. Le haut responsable iranien a ajouté que la Compagnie nationale du pétrole projetait de maximiser la production du gaz au champ de Parsud. Cet hiver, nous avons battu un record en produisant 750 millions de mètres cubes par jour, a-t-il fait savoir. Au Yémen, les combattants d'Ansar Allah ont lancé une série d'opérations militaires contre les mercenaires à la solde de l'Arabie Saoudite dans le district stratégique de Harat, appartenant à la province de Raja. Une opération d'envergure lancée depuis l'ouest de Harat a permis aux combattants d'Ansar Allah de sécuriser plusieurs villages après en avoir repoussé les mercenaires à la solde de Riyad. Lors de cette attaque, qui a entraîné la libération de sept villages et un champ agricole, une centaine de mercenaires ont péri, selon une source sur place. Les régions libérées, d'une superficie de 60 km, se situent dans le district de Midi, qui partage une frontière avec le district de Harat, ajoute la même source. En outre, la libération de ces régions a permis aux combattants d'Ansar Allah d'atteindre la frontière de l'Arabie Saoudite et d'étendre les conflits jusqu'à l'intérieur de la localité de Harissa, au sud de la province de Jizan. Grâce aux percées jusqu'ici enregistrées par Ansar Allah, les régions de l'ouest de la ville de Harad ont été complètement sécurisées et les combattants se dirigent vers la profondeur de Midi, en nord-ouest de Haja, ainsi que le sud de Jizan. Les combattants d'Ansar Allah sont actuellement à une vingtaine de kilomètres de la ville stratégique de Midi et s'ils en prennent le contrôle, la coalition d'agression saoudienne perdra son bastion le plus important dans la province de Haja et Ansar Allah atteindra la frontière de la province de Jizan et la mer Rouge. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires terroristes ont attaqué à nouveau vendredi 18 mars les villages proches des zones qu'elles occupent dans la banlieue nord d'Osaka, en visant à l'artillerie des villages dans la périphérie des localités d'Abu Rassin et Tal-Tambre en nord-ouest d'Osaka. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que les forces d'occupation turques avaient bombardé à l'aide des réseaux terroristes à l'artillerie lourde les maisons des habitants des villages dans la périphérie de la localité d'Abu Rassin et dans un certain nombre de villages périphériques de la localité de Tal-Tambre, dans la banlieue nord-ouest d'Osaka, ce qui a causé des dégâts matériels dans les maisons et propriétés et semé la peur parmi les habitants. Avec le soutien d'une unité de l'armée arabe syrienne, les habitants des villages de Rayat al-Sawda et Tamna al-Rayya dans la banlieue de Ramishli ont intercepté un convoi de véhicules militaires appartenant aux forces d'occupation américaines et l'ont expulsé de la zone. Cité par des sources locales, la correspondante de Sana, Ramishli, a fait savoir qu'un convoi de l'occupation américaine, composé de 6 véhicules militaires, avait tenté de passer vers les villages de Tamna al-Rayya, via le point de contrôle de Rayat al-Sawda, dans la banlieue sud de Ramishli. Les habitants avaient jeté des pierres sur les véhicules de l'occupation et les avaient expulsés des environs des deux villages avec le soutien de l'armée. Les habitants ont de même scandé des slogans contre l'occupation américaine. Le programme alimentaire mondial, PAM, a averti vendredi que le conflit en cours en Ukraine menace davantage la sécurité alimentaire mondiale, les prix des denrées alimentaires ayant déjà atteint un niveau record. Jacob Kern, coordinateur d'urgence du PAM pour l'Ukraine, a souligné lors d'une conférence de presse en ligne que le conflit avait déclenché une vague de faim à travers le monde. En tant que premier et quatrième exportateurs mondiaux de blé respectivement, la Russie et l'Ukraine représentent ensemble 29% du commerce mondial du blé et c'est pourquoi les deux nations sont essentielles pour assurer la sécurité alimentaire de nombreux pays à travers le monde. Selon M. Kern, les prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant ont fortement augmenté depuis le début du conflit. Ainsi, selon l'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ils ont atteint un niveau record en février 2022. En particulier, a-t-il noté, le prix du blé a augmenté de 24% entre le 21 février et le 15 mars. Le Soudan et le Soudan du Sud conviennent d'un accord de coopération aux frontières. Le président sud-soudanais, Salva Kiir, et le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, ont convenu vendredi, 18 mars, de se concentrer sur la coopération le long de leurs frontières communes. Comme point de départ de cette coopération, les deux hommes ont convenu de définir un modèle de paix par le développement des gisements pétroliers inutilisés, y compris celui de la région d'Abyei, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, Maik Ayi Deng Ajuba, la capitale de ce pays. M. Al-Burhan est arrivé à Djouba pour y rencontrer M. Kiir et discuter des progrès et des défis dans la mise en œuvre de l'accord de paix redynamisé de 2018. Les deux dirigeants ont encouragé leurs concitoyens à tirer profit de leur diversité pour enrichir et renforcer les deux pays. Le Soudan du Sud et le Soudan relanceront leur ancienne coopération économique, politique et culturelle qui a rendu notre civilisation de la vallée du Nil prospère depuis le royaume de Kouch qui unit nos deux peuples par une origine commune, a déclaré M. Deng. M. Al-Burhan a présenté au président Kiir une proposition pour l'unification des forces unifiées nécessaires. Le président sud-soudanais a salué la proposition de M. Al-Burhan et son engagement pour une paix durable au Soudan du Sud. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Missiles iraniens déplaceront Israël. Un responsable israélien aurait lancé l'idée d'acheter des îles grecques inhabitées dans la mer Méditerranée avant d'évacuer et de relocaliser les colons israéliens en cas d'attaque aux missiles depuis le Liban et la bande de Gaza. Qui est ce juif génial qui voit les îles grecques comme d'hommes d'enfer pour sauver ses compatriotes d'un scénario de missiles terrifiant et imminent? Pourquoi pleure-t-il le rejet de son idée? Et quel est le lien du milliardaire égyptien Narib Saveris avec ce projet fou? S'interroge Abdel Bari Atvan, le rédacteur en chef du journal Rayal Yaoum, dans un article publié dans le numéro du vendredi 18 mars. Le 3 septembre 2015, le milliardaire égyptien Narib Saveris a eu une idée invraisemblable qu'il a exprimée sur son compte Twitter. Au plus fort de la migration de masse vers l'Italie et la Grèce, Saveris s'est adressé aux autorités des deux pays pour leur faire part de son intention d'acquérir une ville en Grèce pour y reloger les réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe. Ce qui mérite réflexion, explique Atvan, c'est que 7 ans après cette idée folle, un riche Israélien nommé Avri Steiner, membre subsidiaire du Fonds national juif, vient l'apprendre au pied de la lettre. Lors d'une réunion du conseil d'administration à la mi-mars, Steiner a déclaré que l'achat d'îles grecques devrait être exploré comme une option pour évacuer les citoyens israéliens en cas de catastrophe ou de guerre, étant donné que la Grèce compte 40 îles inhabitées. Steiner a poursuivi en disant que les missiles de représailles du Hezbollah ont atteint la station balnéaire israélienne de Netanya pendant la guerre de 33 jours avec le Liban durant l'été 2006 et qu'ils peuvent désormais atteindre toutes les villes à travers les territoires occupés d'Israël. La proposition de Steiner a été rejetée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration car elle contredit les objectifs du Fonds juif qui a été créé en 1901 avec pour mission de collecter des fonds auprès de la communauté juive à travers le monde pour l'achat des terres palestiniennes et financer la construction des colonies juives en Cisjordanie. Atvan estime qu'il n'est pas exclu que les membres de cette instance israélienne regrettent profondément le rejet de cette proposition dans un avenir proche. Selon lui, ils se rendront compte que Steiner était en avance sur eux de plusieurs décennies, car il prévoit d'ores et déjà l'avenir sombre qui attend ses concitoyens en Palestine occupée et tient à élaborer des solutions, compte tenu des dangers qui les entourent de toutes parts, dont les plus importants sont des centaines de milliers de missiles hautement sophistiqués et précis de l'axe de la résistance. Pour Atvan, ce qui a poussé Steiner à lancer cette idée, c'est l'opération de l'épée de Rotz menée pendant 11 jours par les groupes de résistance dans la bande de Gaza en mai dernier. Face à l'incapacité des systèmes antimissiles d'armes de fer à intercepter les 4200 roquettes tirées par les combattants de la résistance, le conflit a contraint l'entité sioniste à envoyer 6 millions de colons dans des abris et fermer les aéroports civils pour la première fois depuis son établissement il y a 74 ans. Le feu de la guerre, conventionnel ou cyberconflit, se rapproche de Tel Aviv. Les missiles, à raison de 3 000 par jour, selon les estimations des sionistes, s'abattront sur les territoires occupés de toutes parts, a averti Atvan en évoquant l'attaque aux missiles du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, qui a détruit un centre stratégique du Mossad à Erbil, en Irak, le 13 mars dernier. Et Atvan a conclu sur un ton ironique que le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, avait bien raison de conseiller aux colons juifs d'apprendre à nager, car lors d'une guerre future, la mer sera devant eux et les missiles derrière.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine entre ce vendredi dans son 23e jour, l'Agence internationale de l'énergie, en effet, craint un choc sur l'offre pétrolière mondiale suite à des sanctions des pays occidentaux, à la tête des États-Unis contre la Russie. Pourtant, l'Agence internationale de l'énergie a prévenu que les barils russes ne pourront pas être facilement remplacés dans l'immédiat. Et dans ce contexte, en effet, les milieux occidentaux, en effet, cherchent à remplacer le pétrole et le gaz russe par d'autres moyens, ce qui n'a pas manqué de provoquer une agitation politique et diplomatique entre les États-Unis et les pays producteurs de pétrole, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Dans ce contexte, justement, en pleine volatilité du marché pétrolier mondial, les sociétés occidentales, dont l'américaine Hunt et la française Total, alors ont tenté et cherchent en effet à investir, bien entendu, sur le dos des Yéménites, des contrats avec les Saoudiens et les Émiratis pour l'exploitation des champs en pétrogazier yéménites. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les répercussions pétrolières et gazières du conflit ukrainien et, bien entendu, cette possibilité et cette perspective d'un rapprochement de plus en plus étroit entre Ansar Allah et la Russie face aux conspirations des milieux politiques et économiques occidentaux. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Les répercussions de la guerre en Ukraine sur le secteur énergétique mondial ont remis au premier plan le dossier du pétrole et du gaz liquéfié au Yémen, après plusieurs signes de l'intérêt des États-Unis et de l'Europe à relancer les exportations du pays, suspendues depuis près de 8 ans en raison des conflits. La guerre au Yémen a stoppé l'exportation de pétrole et de gaz liquéfié, qui est considérée comme l'épine dorsale de l'économie. Elle a déclenché des crises économiques et humaines successives qui ont conduit à la plus grande crise humanitaire au monde, selon le classement des Nations Unies. Des sources yéménites ont confié à l'Arabie al-Jadid que le gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi porte une attention particulière au message des pays occidentaux concernant le dossier du pétrole, car sur fond de crise économique, il a un besoin urgent de ressources financières et doit fournir des réserves de charges à la banque centrale du pays et achever la rédaction du budget de cette année qui fait face à de nombreuses difficultés en raison de la crise financière. Wajih al-Salahi, expert du Centre national de recherche pétrolière, a déclaré à l'Arabi al-Jadid que le gouvernement yéménite démissionnaire prend au sérieux la question de la relance des exportations de pétrole et de gaz sans regarder les politiques internationales actuelles, la polarisation et les conflits qui ont résulté de la guerre en cours en Ukraine et la réticence des pays influents sur le marché mondial de l'énergie à augmenter leur production de pétrole pour couvrir le déficit subi par les marchés internationaux après de strictes sanctions occidentales contre la Russie, y compris l'embargo de Washington sur le pétrole russe. En effet, la visite de Tim Linder King, envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, et de Cathy Wesley, chargée d'affaires de l'ambassade américaine au Yémen en mars dernier, dans les trois provinces pétrolifères de Hadramaut à l'est, Chabwa et Al-Amara au sud, a soulevé des questions sur l'objectif principal de ces derniers. À la suite de cette visite, le département d'État américain a annoncé dans un communiqué que dans le cadre de ce voyage, les besoins de ces provinces et les efforts destinés à renforcer les services de base et les opportunités économiques sur fond de défis dus au terrorisme et à la contrebande ont été examinés. Selon des rapports économiques, le Yémen possède d'importantes réserves de pétrole qui représentent 34% des réserves mondiales de pétrole. En outre, le plus grand gisement de pétrole du monde est situé à la frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, de sorte qu'une partie de ce gisement se trouve à une profondeur de 1800 mètres de l'Arabie saoudite.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue. Et depuis Bruxelles, avec M. Xavier Dupré, économiste. M. Dupré, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ça faisait longtemps, c'est toujours un plaisir.
Alors, comme vous le savez, depuis en effet une vingtaine de jours, alors le conflit entre la Russie et l'Ukraine a créé une forte volatilité sur les marchés du pétrole. D'autant plus que les pays occidentaux et les institutions internationales alors sont bien conscients que le pétrole et le gaz russe ne peuvent pas être facilement remplacés dans l'immédiat. Alors l'obsession des États-Unis, bien sûr, a remplacé le pétrole gaz après les sanctions contre la Russie. Alors les États-Unis et les pays européens se sont tournés naturellement vers alors les pays producteurs de pétrole et de gaz, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Alors avant d'entrer justement dans le vif du sujet, à savoir l'exploitation de vastes champs pétrogaziers du Yémen par les sociétés occidentales, quel premier regard portez-vous sur l'état actuel du secteur énergétique mondial, Monsieur Dupré?
C'est peu de choses de dire qu'il est effectivement aujourd'hui soumis à de très fortes tensions. Je crois qu'on est en train d'assister de la part des États-Unis à une volonté de montrer leur puissance un peu déchue, et cela va contre les intérêts de tout simplement des pays qui sont nettement importateurs de pétrole ou de gaz, dont notamment l'Europe occidentale. Et il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de nous organiser, mais c'était comme ça depuis des années, je veux dire, cette volonté d'expansion de l'OTAN posait de sérieux problèmes, et aujourd'hui, les États-Unis nous rejouent quelque part un épisode de la guerre froide, alors que la Russie n'est plus du tout l'équivalent de l'URSS. L'URSS était coupée des échanges, des grands échanges commerciaux mondiaux. Ce n'est pas du tout le cas de la Russie aujourd'hui. Et donc, la Russie représente aujourd'hui, en l'état actuel des choses, 40% des importations de gaz de l'Europe occidentale et 30% de ses importations de pétrole. À terme, ce qu'il faut craindre, c'est une espèce de chute de la production mondiale, plutôt des barils échangés, puisque en fait la Russie est le premier exportateur mondial de pétrole. Il faudrait s'attendre à un manque sur les marchés qui serait de l'ordre de 3 millions de barils par jour. Il ne serait plus là, ces 3 millions de barils par jour. Il est très clair qu'aujourd'hui, Mais c'est évident, je veux dire, l'Arabie Saoudite ne peut pas lâcher son partenaire russe parce qu'un jour ou l'autre, aujourd'hui il n'y a pas d'accord possible, toute pression possible par les pays producteurs sur des prix sans associer à l'OPEP la Russie. Donc on sent bien que de ce côté-là, les marges de manœuvre sont très limitées. En ce qui concerne le gaz, on est bien vite revenu en Europe pour une série de raisons de l'hypothèse d'importation massive de gaz qatari, notamment lié au fait que le Qatar est déjà engagé dans toute une série de contrats de long terme avec la Chine, la Corée, le Japon, et qui ne vont pas annuler des contrats, s'exposer en plus à des poursuites devant les tribunaux, annuler des contrats pour satisfaire les besoins de court terme des Européens. De surcroît, le gaz qui sera importé du Qatar est un gaz liquéfié. Il faut disposer de terminaux qui permettent de regazéifier ce gaz liquéfié pour le faire circuler. Or, la technologie qui était utilisée notamment en Allemagne, le poumon industriel et économique de l'Union européenne, c'était la technologie gazoduc. Donc il n'y a pas énormément de terminaux qui permettent de liquéfier, de regazéifier le gaz liquéfié. Dans ces conditions, je pense qu'il faut pouvoir acter une réalité, c'est que l'absence de la Russie, des sanctions sur la Russie, eh bien tout cela aujourd'hui pose davantage de problèmes économiques et avec quelque part des États-Unis qui sont devenus un acteur quelque peu particulier puisque eux peuvent se passer. Le pétrole russe représentait, je crois, 3 à 4% de leurs importations. C'est évidemment un tout autre de nos importations à nous en Europe. Donc quelque part, de plus en plus, l'appartenance à l'OTAN de l'Europe occidentale, la volonté d'expansion de l'OTAN sous la direction des États-Unis, aujourd'hui pose un problème économique à l'Europe occidentale. Il est difficilement imaginable que nous puissions nous passer de la Russie pour nos fournitures de gaz et de pétrole. J'en voudrais même pour preuve, et je terminerai là-dessus pour vous dire à quel point la situation devient potentiellement explosive en Europe occidentale, nous ne sommes pas sûrs l'année prochaine de disposer des réserves de gaz suffisantes pour faire face à un hiver normalement rigoureux. Il fait froid en hiver en Europe occidentale. Ça signifierait que pour la première fois depuis 1947, on rationnerait des biens de première nécessité en Europe, chez nous. Ça ne s'est plus vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faudra sans doute rationner une partie de l'énergie. Alors il y a quelques solutions qui sont actuellement mises en œuvre en France, et notamment le blocage des prix. Mais ce blocage des prix, attention, il aura un coût à un moment donné pour les finances publiques. L'appartenance à l'OTAN est aujourd'hui en train de nous couper d'une bonne perception, d'une bonne évaluation de nos besoins, notamment en matière énergétique. Il y a là un drame spécifiquement européen, en tout cas.
Merci.
D'autres pays. Pardon, excusez-moi.
Je vous remercie infiniment. On va revenir justement sur ce choc et les répercussions de ce choc. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, monsieur le professeur Pierre Dortillet, philosophe et politologue. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher monsieur Codabandé. Bonjour à tous les auditeurs et à notre ami Xavier Dupré.
Alors, et pour vous, quelles sont justement les répercussions de ce conflit ukrainien sur la situation économique, le marché pétrolier, en effet, en Europe occidentale? Il paraît que les pays européens, notamment les pays d'Europe occidentale, aujourd'hui, alors, sont en train de payer en quelque sorte le prix de leur appartenance, comme disait M. Dupré, à l'OTAN et de leur alignement sur la politique anti-russe des États-Unis.
Oui, en effet, c'est-à-dire qu'ils sont en train, bien sûr, d'en subir les conséquences. En premier, l'Allemagne, naturellement, avec laquelle, j'aime à le dire, parce que c'est très fondamental, aucun traité de paix n'a été signé depuis la fin de la guerre, de par la volonté commune des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, mais enfin surtout de l'Union soviétique. Et ceci permet d'expliquer pourquoi l'OTAN existe. Parce qu'il n'y a pas justement, disons, il y a une démilitarisation de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit, disons, mis à part son armée de la Bundeswehr, elle n'a pas le droit de, d'avoir d'un armement atomique ni rien. Et donc, l'OTAN est dirigée autant en premier contre l'Allemagne, pays vaincu, que contre la Russie. Puisque, bien sûr, c'est dirigé contre la Russie, mais disons que l'un et l'autre, ces deux grands blocs qui étaient unis pendant la guerre, la Russie et les États-Unis, enfin les pays anglo-saxons, ont un point commun, un intérêt commun, disons, même s'ils ne l'avouent pas, c'est de maintenir une certaine dépendance de l'Europe, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Europe, disons, n'ait pas d'autonomie totale. L'importance de ce que vous avez et de ce que vous-même et M. Dupré ont développé me semble toucher en premier l'Orient. Je crois que la politique de l'Arabie Saoudite s'explique mieux, sa férocité en particulier contre le Yémen, à cause des questions énergétiques. Et il est certain que beaucoup de ces pays qui étaient sous la férule de Washington, tout en gardant ce contact avec Londres et Washington, feront les yeux doux, disons, à la Russie qui poursuit, il ne s'agit pas de condamner ou d'approuver, mais qui poursuit une politique de puissance. En ce sens, elle est analogue à celle, elle n'est pas identique, mais analogue à celle des Américains. Et c'est pour ça que, bien sûr, j'ai parlé de l'Allemagne. L'Allemagne a, disons, prévu ce passage de l'exploitation pétrolière et gazière, surtout au gaz de schiste. Vous avez, disons, le Parti libéral avec M. Scholz, avec les social-démocrates, mais là, une coalition libérale qui est pour l'ouverture à l'Est et une coalition moins importante, mais qui est celle de la ministre des Affaires étrangères, Mme Baerbock, qui est des Verts, donc, qui est pour le gaz de schiste. En ce sens, l'Allemagne, disons, a prévu, avec difficulté, bien sûr, mais peut-on dire ce remplacement de l'énergie ou cette compensation des pertes énergétiques. Pour nous, c'est plus difficile parce que nous ne sommes pas gouvernés d'une façon, en France, disons, unanime. Il y a une unanimité en Allemagne, vous savez, sur les questions de fond, mais pas en France. Et je crains que, naturellement, ou en Belgique même, disons, cet hiver soit rigoureux et vraiment difficile, et qu'il y ait même des troubles, je dirais des troubles politiques, en France, pas en Allemagne, mais en France, disons, liés aux intérêts, je me permets d'être discret, des deux grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur, restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Dupré, alors, les pays occidentaux, les sociétés occidentales ont cherché justement pour compenser ce vide, cette perte des importations de pétrole et de gaz russe, ont cherché à se tourner vers d'autres pays, vers d'autres régions. Et selon alors, les récentes informations des sociétés occidentales, ont même signé des contrats avec les Saoudiens et les Émiratis pour l'exploitation des champs pétroliers et gaziers au Yémen. D'où justement, selon certains analystes, l'intensification en effet des attaques et des opérations dans Sarallah contre la société saoudienne Aramco. Ceci étant dit, est-ce que dans l'état actuel des choses, on va assister à un rapprochement de plus en plus étroit entre la Russie et Ansarallah en d'autres termes? Est-ce que ce rapprochement vous semble-t-il envisageable?
En tout cas, en tout état de cause, je crois que s'il y a un rapprochement de ce type, il sera le fait d'une réaction privée néocoloniale occidentale d'appropriation de matières premières qui sont tout à fait stratégiques pour nos industries et le fonctionnement de nos économies. Le Yémen est éminemment concerné, puisqu'on sait qu'il y a des réserves de pétrole importantes dans ce pays. On sait aussi qu'il y aura vraisemblablement des visées d'expansion et d'exploitation plus intensive du pétrole et du gaz en Afrique également, parce que l'Afrique est également, ou combien, concernée par les visées expansionnistes du capitalisme occidental. Et donc l'impérialisme qu'il suppose, la politique impérialiste qu'il suppose, que ce mouvement suppose, que cette exigence de fonctionnement suppose. Et donc, dans ces conditions, on pourrait très très bien imaginer, concernant le cas spécifique du Yémen, une politique d'exploitation maximale des ressources de ce pays constituerait une spoliation d'une partie importante des Yéménites. Dans ces conditions, effectivement, puisque il y a une montée en conflit qui est quand même relativement évidente aujourd'hui entre les Occidentaux et la Russie, dans ces conditions, il n'est évidemment pas illogique d'émettre l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un rapprochement, que le rapprochement que vous évoquiez puisse voir le jour dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça me semble évident. Il y a aujourd'hui, face à l'hégémonie occidentale et plus particulièrement l'hégémonie états-unienne, un contre-ordre mondial qui s'affirme de plus en plus.
Merci encore. Une toute dernière question à M. le professeur d'Ortiguier. Donc, M. le professeur, face à cette politique néocoloniale des pays occidentaux qui cherche malheureusement à piller, comme disait M. Dupré, les ressources naturelles du Yémen, cela relèverait de l'intelligence géostratégique d'un Sarala des Yéménites de se tourner et de rejoindre le camp russe, M. le professeur, n'est-ce pas?
En effet, ça paraît une sorte de mécanique, disons. Les Yéménites n'ont pas le choix. Il s'agit là, j'essaie de le dire de la façon la plus concise, d'une suite de politiques entamées depuis 1945, c'est-à-dire depuis que l'Europe a été décapitée de l'Allemagne, si je puis dire. C'est une politique, disons, de rivalité russo-américaine. Il n'y a pas d'autre mot. Et bien sûr, si un Sarala est amené par la force des choses, voyez-vous, à commercer avec les Russes, il ne faut pas oublier que nous avons affaire, disons, à une puissance, je parle de la Russie, qui est en grande partie, de par ses cadres actuels, de par la mentalité, de par leur éducation, si vous voulez, formée à l'ancienne Union soviétique. Et donc, il y a un point de départ, une visée matérialiste, si vous voulez. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Et donc, il faut qu'il y ait un troisième point de vue, voyez-vous, à savoir qu'on peut s'allier avec une force qui est rivale d'oppresseurs, par exemple, mais comprendre qu'il faut aussi maintenir, si je puis dire, son originalité. Ça, c'est très difficile. Je crois qu'il y a un pays qui l'a compris, c'est la Chine.
Allô?
Allô, oui.
Vous m'entendez? Un dernier point, monsieur le professeur, en ce qui concerne justement, selon les récentes informations, sur la présence de la société française Total, justement, au Yémen et les éventuels contrats signés alors avec les Saoudiens et les Émiratis, mais sur le dos des Yéménites.
En effet, vous savez que nous sommes très liés, je parle pour la France, monsieur Dupré le sait aussi, avec l'Arabie Saoudite, qui est notre créancier. Je crois que c'est j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est une situation qui date de l'époque de François Mitterrand, de l'arrivée des socialistes au pouvoir en France. Et donc, disons, la France, de ce point de vue, étant débitrice, a quand même, disons, n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire que nous sommes toujours sous la domination, mais sous la contrainte, disons, financière de l'Arabie Saoudite, qui a beaucoup d'investissements en France, etc. Et je sais que, vu le péril de la situation actuelle, ces créanciers ne prennent que davantage d'importance, voyez-vous. Je crois que là, nous payons véritablement notre abandon de politique indépendante, voyez-vous, que nous avions initié sous le président de Gaulle, le président des Pompidou, et là, ou Giscard d'Estaing, là, nous le payons très cher, justement, au fur et à mesure que cet affrontement, cette guerre, disons, mondiale, qui ne dit pas son nom, a commencé.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse, Monsieur Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci bien.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, s'exprimant lors de la célébration diplomatique de Nowruz 1401, nouvel an iranien, a souligné la politique étrangère du gouvernement révolutionnaire du président Raisi est basée sur une amitié croissante et l'unité grandissante dans la région. Khatibzadeh s'est exprimé lors de la cérémonie à laquelle ont assisté des ambassadeurs et des chefs de missions étrangères résidant à Téhéran et de Tony, en fait de club diplomatique du ministère iranien des Affaires étrangères. Il a félicité le nouvel an et l'arrivée du printemps et a indiqué « Nowruz est célébré sur le plateau iranien depuis des milliers d'années parmi les groupes ethniques et les civilisations qui partagent cette culture et ses affinités ». Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères déclarant que pour l'Iran, le Nowruz et le nouveau siècle sont le début de grandes tâches, a ajouté « Notre politique de bon voisinage se reflétera dans ce sens ». Khatibzadeh a ajouté que la politique étrangère du gouvernement révolutionnaire de l'ayatollah Raisi a l'intention de former un avenir commun dans la région basé sur des éléments communs afin d'accroître les amitiés, l'unité. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'un appel civilisé à la paix et à la coexistence pacifique, a conclu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La mission chinoise auprès de l'Union européenne a indiqué, c'était jeudi 17 mars, que Pékin n'oubliera jamais ceux qui ont attaqué l'ambassade de Chine en Yougoslavie et qu'elle n'a pas besoin des serments de la part des usurpateurs du droit international. La mission a exprimé cette position dans une déclaration publiée sur son site web en réponse aux critiques de l'OTAN à l'égard de la Chine concernant sa position sur la crise ukrainienne. Le peuple chinois est en mesure de partager pleinement la douleur et la souffrance des autres pays, car nous n'oublierons jamais les bombardements de notre ambassade en Yougoslavie. Nous n'avons pas besoin de sermons sur la justice pour les profanateurs du droit international. Le communiqué a déploré en tant que de relique de la guerre froide et la plus grande alliance militaire au monde, l'OTAN continue d'étendre sa géographie et la portée de ses opérations. L'OTAN doit réfléchir sérieusement au rôle qu'elle a joué pour apporter la paix et la stabilité dans le monde. Le 7 mai 1999, à la suite des bombardements de l'OTAN, l'ambassade de Chine à Belgrade a été endommagée, causant la mort de 3 personnes et faisant plus de 20 blessés. Mardi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé la Chine à condamner la guerre et à ne pas soutenir la Russie. Tout soutien militaire ou autre à la Russie dans sa guerre hostile contre de l'Ukraine viole le droit international, a-t-il prétendu lors d'une conférence de presse. Le ministère chinois des Affaires étrangères a fermement condamné et rejeté la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, selon laquelle la réticence de Pékin à condamner la Russie contredit sa position sur la charte des Nations Unies. Ce jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que son pays avait toujours cru en la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il y a 2 jours, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a souligné que la Chine n'est pas partie à la crise et souhaite toujours ne pas être affectée par les sanctions. La Chine s'est toujours opposée à l'utilisation de sanctions pour résoudre des problèmes, sans parler des sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement dans le droit international, qui nuiront à la vie des gens dans tous les pays, a-t-il déclaré. Le président américain Joe Biden a traité Vladimir Poutine de criminel de guerre, tout en promettant une aide militaire massive à l'Ukraine. Et répondant à une journaliste, le président américain Joe Biden a lâché à des propos de son homologue russe « c'est un criminel de guerre ». Des propos inacceptables et impardonnables, a répliqué le Kremlin. Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du chef de l'État dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dimitri Peskov, cité par les agences TASS et RIA Novosti. Les Yéménites risquent de sombrer dans la famine, selon l'Organisation des Nations Unies. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, a annoncé que la guerre en Ukraine a provoqué une hausse mondiale des prix des denrées alimentaires et une baisse des aides financières, ce qui pourrait approfondir la crise de la famine au Yémen. Le Programme alimentaire mondial a indiqué que le nombre de Yéménites ayant besoin d'une aide alimentaire cette année est passé à 1,2 million, portant le total à 17,4 millions de personnes. Selon le PAM, les personnes qui ne seront probablement pas en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires minimum pourrait ainsi atteindre le chiffre record de 19 millions. En effet, le Yémen est en proie à l'une des pires crises alimentaires au monde. Par ailleurs, le communiqué indique en ce sens qu'ils ont dû arrêter les aides alimentaires auparavant fournies à 8 millions de Yéménites en raison d'une pénurie d'aide alimentaire. 5 millions de Yéménites sont menacés de la famine suite à l'attaque russe contre l'Ukraine, a précisé la même source. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a souligné que des millions de Yéménites risquent de sombrer dans la famine si des mesures urgentes ne sont pas prises. Les enfants au Yémen ne meurent pas de faim à cause du manque de nourriture, mais parce que leurs familles n'ont pas les moyens d'en acheter, a déclaré l'organisation dans un tweet cité par l'agence Anadolu. L'Arabie saoudite mène depuis mars 2015 une guerre d'agression sans merci contre le Yémen et impose un blocus contre ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe. La guerre saoudienne contre le Yémen, en cours pour la 7e année consécutive, a coûté la vie à 233 000 personnes, tandis que 80% de la population d'environ 30 millions de personnes dépend de l'aide pour survivre dans la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné les exécutions en Arabie saoudite de 81 personnes accusées d'être liées au terrorisme, estimant que les peines prononcées à certains d'entre eux pourraient être considérées comme des crimes de guerre. Dans un communiqué, Mme Bachelet a déclaré que parmi les personnes décapitées figuraient 41 personnes appartenant à la minorité chiite qui avaient participé à des manifestations antigouvernementales en 2011 et 2012 pour exiger une plus grande participation politique en plus de 7 autres yéménites et d'un ressortissants syriens. Notre observation indique que certaines des personnes exécutées ont été condamnées à mort à l'issue de procès qui n'ont pas satisfait aux exigences d'un procès équitable et aux garanties d'une procédure régulière. Elles ont été accusées de crimes qui ne semblent pas répondre aux crimes les plus graves comme requis par le droit international, a-t-elle souligné. Madame Bachelet a également exprimé sa préoccupation que certaines des exécutions semblaient être liées au conflit armé en cours au Yémen. Lundi, une source yéménite bien informée a révélé que parmi les personnes exécutées par l'Arabie Saoudite se trouvaient deux prisonniers de guerre yéménites qui ont été capturés sur le front de bataille à la frontière de Jizan il y a 5 ans. Madame Bachelet a conclu en notant que le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire interdisent l'exécution des condamnations à mort à l'issue de procès qui n'offrent pas les garanties de procès équitables requises et les peines dans ce cas peuvent constituer des crimes de guerre. À noter que les États-Unis se sont abstenus de commenter l'exécution massive menée par les autorités saoudiennes. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.